Beaucoup de fois, on a essayé, ma sœur et moi, de demander à l'aide.
J'ai ma meilleure amie qui, quand j'en parle, elle me laisse en parler 5 minutes et puis je pense pas que ce soit conscient, mais au bout d'un moment, elle finit par changer de sujet.
Il y a vraiment cette espèce de rapport à la honte, quoi, et que c'est la victime qui doit porter ça, seule.
J'avais 8 ans au moment des faits. C'est mon cousin, qui était aussi mineur, qui m'a demandé tout un tas de choses. Comme de lui montrer mon sexe, de mettre son sexe dans ma bouche, de m'asseoir sur lui. À l'époque, j'avais aucune notion de sexualité. Je pensais que c'était un jeu. Du coup, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Je m'appelle Léa. J'ai 26 ans. Je fais des études de photographie en lycée pro, puis de chant lyrique dans un conservatoire. Vers la vingtaine, j'en ai parlé à ma mère et à une de mes sœurs. Elles ont été horrifiées, ça leur a brisé le cœur. Après, elles en ont parlé à mon père et à une autre de mes sœurs, et pareil, ils étaient dévastés. Surtout quand ils ont appris que la mère de l'agresseur, ma tante donc, elle était au courant et elle avait tenté de me faire taire. Quand j'ai porté plainte, j'ai été insultée de tous les noms par toute une partie de ma famille. De pute, de folle, de menteuse, etc. J'ai été humiliée. J'ai reçu des menaces détournées. Voilà, après, il y avait quand même mes proches qui me soutenaient. Puis j'ai été bien entourée par les policiers en charge de ma plainte. Ils ont été assez pédagogues. Ils ont d'ailleurs tout de suite compris où se trouvait la vérité. Surtout au moment de l'audition de la mère de ce cousin, qui a simulé un malaise pour échapper aux questions. Puis il y avait confrontation. Mais je ne suis pas allée parce que je n'en pouvais plus entendre de qui que ce soit que je mentais. Enfin, en connaissant et en vivant au quotidien toutes les conséquences de ce genre de trauma et la lutte que ça implique, j'ai plus la force d'entendre ce genre de propos. Au niveau médical, je me suis orientée vers la psychiatrie, pas par choix, mais par manque de moyens, et c'était une très mauvaise expérience. J'ai aussi côtoyé pas mal de soignants qui m'ont dit des trucs du type « Le viol et l'inceste, c'est juste la conséquence d'un manque d'éducation. Celui qui t'a agressé, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait au même titre que toi, t'avais pas conscience de ce qu'il t'arrivait. »
La voix que vous venez d'entendre, c'est pas celle de Léa. Elle a préféré m'écrire tellement c'est dur de parler de son vécu d'inceste. Du coup, j'ai fait lire son témoignage par une amie. Et au-delà de la difficulté de briser le silence, il y a la difficulté d'être écoutée, d'être reconnue. Même quand je parle du fait que je travaille sur l'inceste, la réaction de mon entourage, c'est souvent « Ah ouais, c'est dur, mais on me pose pas de questions. » Ça illustre bien à quel point on a appris, en tant qu'individu et en tant que société, à faire comme si de rien n'était. Pourtant, les chiffres, ils sont là. En France, en 2022, une personne sur 10 vit ou a vécu l'inceste. Selon les conclusions intermédiaires de la CIVISE, c'est la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, 60,9% des femmes et 76,2% des hommes mettent plus de 10 ans à révéler les faits. Certes, la parole se libère peu à peu ces dernières années, grâce au hashtag MeTooInceste ou à la loi du 21 avril 2021 qui dit que aucun adulte ne peut se prévaloir du consentement sexuel d'un enfant de moins de 15 ans ou 18 ans dans le cas d'un inceste. Faut quand même noter qu'elle dit absolument rien des agressions entre mineurs, dans une fratrie par exemple. Donc si on reprend, les deux tiers mettent plus de 10 ans à parler, et il se passe quoi après? Malgré le courage que ça prend de briser le silence, 4 victimes sur 10 affirment que le confident, que ce soit un proche, un médecin ou autre, n'a rien fait. À peine 5% des signalements sont faits par des professionnels de la santé, 70% des plaintes sont classées sans suite, et seulement 0,2% des agresseurs sont condamnés. C'est ça la norme. Pas d'écoute, pas de suivi médical, pas de justice, pas de reconnaissance.
J'en pouvais plus d'entendre de qui que ce soit que je mentais.
Alors pourquoi pas nager à contre-courant et écouter d'autres personnes dont les témoignages illustrent la violence de ce déni sociétal? Essayer de comprendre comment on représente l'inceste et pourquoi, et réfléchir à des solutions qui nous permettraient peut-être à nous, proches, amis, médecins, profs, flics et juges, de comprendre l'inceste et ses ravages. Et pour le comprendre, il faut d'abord l'écouter.
Moi, j'étais victime d'inceste par mon père biologique jusqu'à mes 8 ans, en fait. Donc, et les viols proprement parlés ont commencé à 3 ans. Mais avant, j'ai des souvenirs d'attouchement et quand même agression sexuelle, en fait. Donc, je m'appelle Céleste, j'ai 42 ans. Je suis assistante de recherche à l'université, je travaille à temps partiel et sur mon autre temps partiel, je travaille en tant qu'illustratrice. Ça a pris fin parce que j'ai une sœur qui n'avait de cesse d'appeler à l'aide. Et en fait, ce jour-là, de mes 8 ans, ma mère a surpris mon père en plein acte. Elle était déjà dans le déni de l'inceste qu'elle avait vécu elle-même, donc elle ne pouvait pas voir. Et il n'y a eu que cette confrontation pour qu'elle s'en rende compte vraiment. Je revois la scène, mais en tout cas, je sais que ma mère parlait. Je ne sais pas si mon père était là, mais j'ai ce souvenir qu'elle nous disait « Papa ne peut pas aller en prison, donc on n'en parle plus, nanani nanana ». Et après, en fait, moi, j'ai fait une amnésie post-traumatique, ma sœur aussi, et je pense que ma mère aussi. J'en ai reparlé vers mes 20 ans, en fait, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu des soupçons ou un bribe de souvenirs et j'en ai parlé à ma mère et à ma sœur. Et de nouveau, injonction à me taire en me disant « mais non, ce n'est pas vrai ». Ma mère qui me dit « ce n'est pas possible, je m'en serais rendu compte ». Et ma sœur jumelle qui m'a dit « écoute, si ça c'est fait, c'est passé. Maintenant, t'as ta vie d'aujourd'hui et on avance ». Je suis quand même un peu en colère, mais je comprends aussi. Mais tu vois, parce que quand on était petite ou quand j'étais petite, beaucoup de fois, on a essayé, ma sœur et moi, de demander à l'aide. Et moi, je me souviens, en fait, que quand j'étais petite, j'ai une dame à qui je l'ai dit, une amie de la famille, en fait, et qui a compris de quoi je parlais et qui m'a dit, c'est comme ça, en fait. C'est ton père et c'est comme ça. On peut rien faire.
Ma mère s'est séparée de mon père quand j'avais 3 ans. Donc je pense que ça a démarré à ce moment-là, en fait. Et ça s'est terminé quand j'avais 7 ans. Je sais que j'ai vécu dans un climat incestuel. Par contre, je ne sais pas si... Alors, c'est mon père qui m'a fait subir ce climat. Et je ne sais pas s'il m'a fait des choses ou pas, parce que c'est complètement enfoui en moi. Je m'appelle Agnès, j'ai 40 ans. Je suis magasinier des bibliothèques en bibliothèque universitaire. Le climat incestuel, en fait, c'est l'inceste moral. Par exemple, pour mon père, c'était « il n'y a que moi qui suis capable de t'aimer, il n'y aura jamais personne entre nous ». Et aussi, en fait, le manque de limites. Moi, je dormais beaucoup avec mon père à cette période-là, entre mes 3 et mes 7 ans. Mais j'étais la chose de mon père. Mon père disait que j'étais son bâton de vieillesse. Et à cette époque-là, cette phrase-là, que je ne sais plus exactement les mots, mais cette phrase-là, ça résonnait en moi comme si j'étais sa femme. Et puis, quand on était... mon père, il était alcoolique et violent. Et quand il me présentait au bistrot à ses copains, il ne me présentait pas toujours comme sa fille. Il ne me présentait pas, il disait juste Agnès. Et une double emprise, parce qu'il y a eu de l'emprise de mon père. Mais disons que j'étais suffisamment forte pour m'en détacher. Mais il y a eu l'emprise de ma grand-mère, donc la mère de mon père, qui me disait « Oui, mais regarde, c'est ton père, tu dois l'aimer, tu dois... T'as un devoir envers lui. » Voilà, donc c'est elle qui me refoutait dedans, en fait. Quand j'étais petite, quand j'avais 3 ans, donc peut-être au début de ce que mon père m'aurait fait, j'ai dit à ma mère la phrase suivante. C'est ma mère qui me l'a répété parce que moi, j'en ai aucun souvenir. Hein. J'ai dit à ma mère, papa, il m'a piqué avec son zizi. Comme elle n'a rien fait à ce moment-là, après, je me suis dit, j'ai parlé, mais on ne m'a pas entendue parce que je ne me suis pas sentie entendue. Puisque j'en ai aucun souvenir, je me suis pas sentie entendue et du coup, À part à mes 14 ans, quand j'ai appelé ma mère en urgence en me disant « Papa, il m'a tapé, viens vite », à part à ce moment-là, je n'ai rien dit. Strictement rien dit. J'ai fait comme si tout allait bien, sauf que ma mère... ma mère, elle voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et mon père, comme il était assez influent, il était gendarme à ce moment-là, il avait fait venir un huissier pour venir me chercher parce que ma mère ne voulait plus me présenter.
Du coup, j'ai été incesté jeune, ça a commencé quand j'avais 4 ans par là. Ça a duré 2 ans, on va dire, à peu près. J'ai pas de souvenir clair de ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est produit, c'est que quand j'avais 10-11 ans, il y a mon beau-père de l'époque qui a retrouvé dans ma chambre un billet où j'avais écrit « Mon frère a abusé de moi ». Du coup, il en a parlé à ma mère. Ma mère est venue me demander si c'était vrai et ce qui s'était passé. J'étais incapable de répondre, évidemment. Et là, elle a appelé mon frère, qui est de 10 ans, mon aîné. Voilà, en fait, bah, bref, au téléphone, il s'est mis à pleurer. Ma mère me l'a passé. Il m'a dit qu'il était désolé. Du coup, en fait, là, c'était l'événement en fait, qui a confirmé mon statut de victime. Je m'appelle Bastien Hippocrate, je suis danseur, performeur et chorégraphe. Je suis une personne afrodescendante, queer, PD, de nationalité suisse, immigrée de deuxième génération. Du coup, après ça, ma maman, elle m'a approché d'une association d'aide aux victimes. Et là, c'était assez désastreux parce que du coup, je me suis retrouvé à un entretien avec un conseiller. Et il m'a fait écrire sur une feuille A4 ce qui s'était passé. Le 7, c'est que je suis dans un bureau administratif, hein, disons quand même. J'ai genre 10-11 ans. Et là, il y a cette personne qui me dit, voilà, soit j'ouvre cette lettre et des procédures vont être entamées. Ou alors tu as la possibilité de détruire la lettre et de la mettre dans la broyeuse à papier. Et là, il m'a dit en fait que... En gros, s'il allait ouvrir la lettre, que ça allait détruire ma famille, en fait. C'est surtout ça qu'il m'a dit, que si on ouvre la lettre, c'est que ça allait détruire ma famille. Et voilà, tout gamin que j'étais, ben, j'ai mis la lettre dans la broyeuse à papier. Cette structure... m'a donné en fait la responsabilité, pas de ce que j'avais vécu, mais de des répercussions. Et en plus de ça, moi je trouve ça quand même assez malade qu'il n'y a pas une autre solution. C'était genre, non, soit tu portes plainte, soit tu retournes dans le silence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis retourné dans le silence parce que on n'a plus jamais reparlé avec ma mère, dans ma famille, enfin vraiment, comme si de rien n'était.
Vous l'avez entendu, que ce soit les proches de Léa, d'Agnès et de Céleste, ou la structure d'aide vers laquelle s'est tournée la mère de Bastien, presque aucune personne n'a réagi de la bonne manière face à la révélation des faits. Et la société dans son ensemble fait pareil. Dans les médias ou dans l'art, quand l'inceste est dit, quand il est représenté, on n'aborde presque jamais les enjeux qui l'accompagnent.
Je m'appelle Nina Colomer, j'ai 25 ans. Je fais des études en philosophie pour devenir professeur, et j'ai travaillé en mémoire de Master 2 sur la question de l'inceste en philosophie politique pour penser ce phénomène non pas sous le prisme du fait divers, mais sous le prisme d'une pierre angulaire d'un système de violence. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que la manière dont on en parle, je dis « en tant que société », ça participe à ce système-là. Il y a des analyses très, très puissantes chez Elsa Dorlin des campagnes de sensibilisation des violences conjugales qui montrent des corps féminins très stéréotypés, marqués par les coups. Ces images-là, elles montrent la puissance des corps masculins en creux et c'est un portrait magnifiant. Et le discours dans les séries, c'est un discours qui, lui, va parler du glauque. Parce que c'est un objet de fantasme, c'est un objet gore, c'est un objet glauque qui marche très bien dans les fictions à tendance horrifique. Dans ce discours-là, ça n'aide pas les victimes du tout. Parce qu'au contraire, ça installe une image de ce qu'est une victime et puis elle ne peut pas se sortir de cette position-là. C'est très essentialisant. Donc la victime, c'est... une jeune femme bien sage, bien docile, évidemment. Donc, comme dans toutes les images, elle est innocente, blanche, mince, toujours. Et puis, elle sera jamais rien d'autre qu'une victime. Une troisième forme de discours, c'est les discours de prise de parole. Donc, de temps en temps, il y a des personnalités publiques qui font œuvre d'une force incroyable et qui font le récit des violences qu'elles ont vécues. On va se dire « Oh la pauvre !» On va même verser trois petites larmes et se dire oh, « je suis vraiment une bonne personne parce que je ressens de la peine ». Et ça aide personne non plus, parce que c'est pas un discours politique, c'est un discours qui, pas dans la manière dont il est écrit bien sûr, mais dans la manière dont il est reçu et traité médiatiquement, est un discours pathétique. On va inviter le public à se sentir éthique et c'est tout. On va pas penser les conditions des violences, leurs conditions de réitération, la possibilité de leur jugement, leur entrée dans des statistiques. Toutes ces questions-là, elles vont être complètement passées sous silence.
Mais alors pourquoi ? Pourquoi l'inceste est presque toujours abordé selon ces trois discours ? Pourquoi ce qui fait notre culture, ce qui la construit, nous apprend à ne pas prendre en compte les conséquences de l'inceste et les besoins des victimes ? Pour Nina Colomère, si on se penche pas sur les vraies questions que soulève l'inceste, c'est parce que ça reviendrait à remettre en question le fonctionnement même de la famille et donc l'enseignement de la violence de notre société aux enfants.
L'inceste, c'est pas seulement une violence entre un incesteur et un enfant incesté, parce que c'est des violences qui sont répétées. En moyenne, ça dure 4 ans. Donc les autres membres de la famille le voient. Donc ça, c'est le premier système. C'est le système famille. C'est un système politique. Ça, on a tendance à l'oublier, on a tendance à partir du principe que c'est une vérité biologique de tout temps. Et le système famille, c'est une construction politique. On a décidé qu'on vivait avec sa famille nucléaire. Ce qui permet de voir que c'est une construction avec une assise politique, c'est que les parents ont des droits. Il y a très longtemps, ça s'appelait les droits de propriété. Aujourd'hui, on appelle ça les droits, les responsabilités parentales, les droits parentaux, ce qui est grosso modo la même chose. Et que, par exemple, les enfants qui fuguent, la police va les chercher et les ramène chez eux parce que quand même, ils appartiennent à leurs parents. On est un des seuls pays à continuer à faire ça, d'ailleurs. Notre famille, notre système politique famille, non seulement on dit qu'il a une réalité biologique complètement anhistorique, mais on va aussi l'idéaliser avec toute une imagerie culturelle. La famille, c'est l'endroit où on est en sécurité, où on est heureux. Quand ça va pas, on va voir sa famille. Quand on est adulte et qu'on se sent mal, on se dit « Ah, oh, c'était bien l'enfance ». Statistiquement, la famille, c'est la sphère la plus criminogène de la société. Pourquoi est-ce qu'on maintient cette sphère-là alors qu'on sait qu'elle est vraiment très, très violente ? Eh bien, c'est parce que c'est là qu'on apprend, on est éduqué. Et on apprend quoi ? On apprend que si on a un problème, personne va venir nous aider. On apprend que si quelqu'un est violent, il faut toujours qu'on anticipe sa violence, qu'on anticipe sa colère, parce que sinon on va en prendre plein la gueule et personne ne va venir nous aider. Ou on apprend que pour être tranquille dans la vie, il faut être cette personne-là, il faut être cette personne qui est violente, il faut être cette personne qui performe la violence et qui la manifeste et qui la rend physique. Et ça, c'est bien utile ensuite d'avoir des citoyens qui sont formés à la violence, parce qu'ils sont formés soit à la réitérer, soit à la craindre. Pour que l'inceste tienne, l'inceste comme pierre angulaire de notre société patriarcale, il faut qu'il soit tué.
Pour essayer qu'il le soit de moins en moins, le CAIP, pour Collectif d'aide internationale inceste et pédocriminalité, organise des groupes de parole. Les personnes qui y participent, elles y trouvent cette écoute sans faille et partagent leur vécu pour trouver ensemble des solutions. C'est via ces groupes que j'ai rencontré Léa, Agnès et Céleste que vous avez entendu juste avant. J'ai assisté à trois d'entre eux avec la confiance de Sylvie Benamou, cofondatrice et présidente de l'asso.
En fait, donc, nos groupes de parole sont effectivement thématiques. Donc là, on a récupéré vraiment le dispositif qui venait déjà plus ou moins des groupes de parole pour alcooliques anonymes, qui sont vraiment sur le fonctionnement d'être finalement sur du père aidant, hein, sur le fait qu'ils sont animés en fait par des anciennes victimes, enfin après elles se nomment comme elles le souhaitent, suffisamment rétablies aussi pour pouvoir réguler et animer le groupe. Je dirais que par rapport à ce qui existait avant, on a gardé l'idée du thème, chaque mois un thème différent où on élabore quelques questions, avec toujours une première partie qui est une sorte d'état des lieux sur le sujet, hein, c'est-à-dire voilà, quelles ont été potentiellement les difficultés que j'ai pu connaître par rapport à ce sujet. Après, on fait une petite pause et deuxième partie, on est plutôt sur la recherche de résolution. Et ça, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'on va mettre en commun aussi tout ce qui a pu nous aider par rapport à un sujet.
Ces groupes, ils représentent une première étape dans la quête de reconnaissance des personnes qui ont vécu l'inceste. Mais c'est aussi nécessaire que des initiatives voient le jour pour sensibiliser leur entourage et les professionnels à qui elles font appel. Dans ce domaine, il y a Le Loup. C'est une BD pour enfants écrite par Mylène Chapiron qui a été très médiatisée. Elle a été présélectionnée pour le prix UNICEF et elle est rentrée dans le répertoire du ministère de la Santé pour les professionnels du périscolaire et de l'extrascolaire. Des outils comme le sien, il y en a plein, pour tout type de public. Et Sylvie Benamou a parlé d'Isabelle Lelouch. Je l'ai rencontrée à Paris pour parler de son travail.
Je m'appelle Isabelle Lelouch, j'ai 58 ans. J'ai créé l'association Enfance Intégrité en 2013 avec la conviction qu'il fallait aider les enfants et que c'était par les enfants que ça passait. Et comme je suis écrivain, j'ai pensé qu'il fallait donner aux enfants des contes, quelque chose qui soit à leur portée, qui puisse leur parler de la question de l'inceste, en respectant leur sensibilité. Donc la première démarche, ça a été de travailler avec une dame qui est psychanalyste et poète, qui s'appelle Jacqueline Persigny. Donc on a travaillé sur le conte de Podane pendant plusieurs mois pour essayer d'en faire quelque chose d'entendable différemment que dans le conte de Perrault. Et quelque chose qui soit pour la scène. C'est tout un univers, en fait, qui est créé dans le spectacle. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on aborde la question d'une manière relativement frontale à un moment donné. Justement, parce que la question de l'inceste, c'est de ne pas dire. Alors, à un moment donné, on dit... Il y a une comédienne, parce que ce sont deux cuisinières dans un château, et elles se disputent en permanence... L'une disant « moi je connais la vraie histoire » et l'autre dit « non, c'est pas la vraie histoire, moi, c'est moi qui ai la version de la vraie histoire ». Exactement comme dans les questions d'inceste. Donc ça c'est subliminal, mais à un moment donné, on prend la marionnette du roi, qui est donc le père, et elle dit « non, un père n'a pas le droit d'épouser sa fille ». Alors c'est vrai qu'on parle pas de sexualité, on parle pas d'actes... déviant de sexualité, mais néanmoins, on pose là l'interdit de l'inceste. Et puis il y a dans le spectacle des phrases qui reviennent régulièrement, qui sont des petits leitmotivs. Par exemple, les filles ne sont pas des modes de terre que les pères peuvent modeler à leur guise. Et là, on a joué la semaine dernière, dans le 93, à Villemomble, dans une école. Il y avait 120 enfants et il s'est passé vraiment quelque chose de super. Les enfants ont adoré, la directrice de l'école aussi. Et ensuite, il y a eu un débat dans lequel on a pu nous-mêmes poser des questions aux enfants sur leur compréhension des enjeux du texte, etc. Donc, on a pu un peu plus creuser la question des abus en général. Ils ont très bien compris, mais leurs questions étaient très pertinentes. Voilà, c'était très très bien.
Les enfants comprennent rapidement ce qui est acceptable ou non. Mais ça fait pas tout. Les incesteurs s'arrêtent rarement au refus de l'enfant. Et selon Nina Colomère, c'est primordial de leur donner le vocabulaire adapté, au moins celui du corps, pour qu'ils puissent dénoncer les violences qu'ils subissent avec précision et être compris des adultes. Et ça m'a tout de suite fait penser à cette phrase de Céleste.
Quand nous, on essayait de parler, ma sœur et moi, on n'utilisait pas des mots compréhensibles par des adultes, en fait. Parce que mon père disait « c'est ton devoir ». Donc je disais « papa, il m'embête, il veut que je fasse mes devoirs ».
Et c'est aussi important de sensibiliser les adultes et de les former. Le spectacle d'Isabelle Lelouch, il sert aussi au corps enseignant, par exemple. Ça leur permet de se questionner sur comment détecter, signaler et accompagner un enfant victime d'inceste ou de violences sexuelles. Bastien, que vous avez entendu tout à l'heure, il a créé Love Letters or Not. C'est un spectacle de danse destiné aux adultes qu'il joue en solo pour porter son message. Au-delà d'un simple témoignage, il illustre la complicité des autres qui voient mais qui disent rien et la détresse dans laquelle le déni des autres replonge les personnes qui ont vécu l'inceste.
Pour cette pièce, moi j'ai vraiment ressenti le besoin et l'importance d'utiliser des mots. En fait, gentiment, j'ai commencé à faire des entretiens avec ma mère et ma sœur, où j'enregistre leur voix. Le public, c'est la scénographie. C'est une scénographie vivante. Pour moi, elle représente en fait la constellation sociale qui existe autour d'une victime. Je déambule dans le public d'une manière assez lente, en regardant vraiment les gens dans les yeux et en adoptant des postures de plus en plus sexualisantes. Et du coup, le public se trouve à la fois comparse de scène, il est aussi dans une position de voyeurisme. Les gens se regardent entre eux également. Et du coup, ça crée plein de lignes de regard et de focus. Et là, la bande-son, elle est assez pesante. Et fin du premier tableau. Je prends un micro et là, je commence à chanter a cappella la chanson des Sparks, qui est la bande originale du film Annette de Léo Carax. We love each other so much. We love each other so much.
Speak soft when you say we love each other so much. Speak soft when you say it. Speak soft when you say we love each other so much.
Et puis, là, il y a ma voix qui apparaît avec les mots de ma maman et de ma sœur cadette. Bref, tu comptes me faire parler de ça à chaque fois que t'es bourré? Et là, il y a un son techno hyper arythmique qui vient et moi, je danse comme si vraiment une espèce de forme de pulsion de vie, de nécessité de vie, d'oublier aussi. Et en fait, là, dans mon corps, ce que j'apporte, c'est que, en fait, cette danse-là de la survie, elle fonctionne plus. Elle est fatigante. L'oubli de soi, c'est aliénant. Et en fait, je crée une espèce de rapport avec le public où, d'un côté, il est transporté par cette musique électronique, arythmique. Ça leur donne envie de danser, mais chaque fois qu'il y a la possibilité de danser par-dessus, ben, en fait, le rythme, il change. Et je suis toujours dans un rapport hyper frontal. Et en fait, là, de plus en plus, j'arrête de danser. Ça reprend parfois et j'essaie de retrouver le flow, mais en fait, ça se casse la gueule, et ça se casse la gueule, et ça se casse la gueule, jusqu'à ce que j'arrête complètement, et là, il n'y a plus de son. Il y a un silence épais qui s'est établi entre le public et moi.
Tous ces outils sont essentiels pour qu'on arrête de remettre sans cesse en question la parole des personnes qui ont vécu l'inceste. Parce que l'écoute, elle est vitale. Nina Colomer me l'a expliqué, cette reconnaissance, elle permet aux victimes de replacer leur vécu dans la vérité, dans le concret. Il est impossible qu'une seule et même chose soit et ne soit pas. C'est le principe de non-contradiction posé par Aristote qui est à la base des sciences. Sans ça, les victimes restent dans un état de distorsion cognitive qui est ensuite le terreau de beaucoup de traumas. Tout n'est pas acheté non plus. Céleste a été prise en charge par la justice de la meilleure des manières, même si sa plainte a été classée sans suite. Le procureur à qui elle a écrit l'a tout de suite cru, le policier qui l'a reçu aussi, il lui a dit qu'il voulait se charger de son dossier mais qu'elle pouvait être suivie par une femme si elle préférait. Son audition s'est bien passée. Léa a été soutenue par sa famille nucléaire, ils l'ont tout de suite cru et ils ont pris des distances avec la partie de sa famille qui remettait sa parole en cause. Mais pour que ces exceptions n'en soient plus, et que les personnes qui ont vécu l'inceste puissent être reconnues, accompagnées et obtenir justice, il faut que la société entière soit sensibilisée et questionne sa manière de réagir face à l'inceste. Je m'appelle Nicolas Perrin et c'était Les mots justes, représentativité et reconnaissance des victimes d'inceste, produit dans le cadre du mémoire de master de journalisme de l'ULB, aide à la réalisation Leslie Doumerc, mixage Philippe Delchambre et musique de Victor Novak. Merci à toutes les personnes qui m'ont accordé leur confiance, à Léa, Céleste, Agnès et Bastien. Et enfin merci à Sylvie Benamou, présidente du CAIP. C'est en partie grâce à son aide que j'ai pu réaliser ce projet.